Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire. Et nous allons poser une question aujourd'hui. Et la France dans tout ça? Dans tout ça, c'est-à-dire cette crise politique qui s'est affirmée ou qui a surgi avec le recours du gouvernement au 49.3, à l'article 49.3, pour faire passer la loi sur les retraites. Loi qui était censée être soumise au vote de l'Assemblée après avoir été approuvée en première lecture, donc après avoir été approuvée par le Sénat, sur la base d'un compromis élaboré par une commission mixte paritaire. Et ce texte de la commission mixte paritaire n'a pas finalement été soumis au vote de l'Assemblée nationale, faute pour la Première ministre d'être assurée d'une majorité. Et elle l'a donc dégainé, comme on dit, le fameux article 49.3 qui permet une adoption du texte sans vote, sauf si, évidemment, une motion de censure, parce que le 49.3 va toujours avec le dépôt de motion de censure de la part des oppositions, sauf si l'une de ces motions de censure était adoptée, auquel cas, évidemment, le gouvernement serait obligé de démissionner. Nous avons aujourd'hui avec nous Éric Le Boucher. Bonjour Éric.
Bonjour Jean-Marie.
Merci d'être avec nous. Donc Éric Le Boucher est éditorialiste à la fois aux Échos et dans le journal L'Opinion. Parce que je voulais peut-être presque commencer par cela. On nous décrit, alors la crise politique est là de toute façon. On verra bien ce qu'il en est ensuite, quelle sera la marge de manœuvre du gouvernement. D'abord, il faut passer le cap de la démotion de censure. Donc on va en dire peut-être un mot tout à l'heure. Mais auparavant, on est quand même instruit dans l'idée que tout va mal et la France va encore plus mal que mal, si j'ose dire. Donc Éric, est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu le tableau de votre analyse sur ce sujet? Parce que dans les explications données par le président de la République pour le recours au 49.3 plutôt qu'au vote, il dit qu'il ne voulait pas prendre le risque, et notamment pas prendre de risque financier. Est-ce donc que la situation de la France est si difficile ou si compliquée qu'elle est à la merci d'un retournement ou elle est à la merci de devenir une cible de la part des marchés parce qu'elle est très endettée et parce que le rejet de cette réforme des retraites aurait signifié pour les marchés une incapacité à prendre les bonnes décisions dans ce contexte? Comment peut-on regarder cela?
Globalement, on peut que répondre oui à votre question. Effectivement, il y a quand même un risque financier que la signature de la France se dégrade. Nous n'avons pas des très bons comptes publics qui sont en déficit encore de 5%, puis l'année prochaine encore de 5%, etc. Nous nous sommes décrochés et mis plutôt avec les pays méditerranéens, et notamment l'Italie, d'un point de vue budgétaire et financier. Donc le risque existe. Il n'est pas si gros que ça, parce que je crois, moi, personnellement, que Macron est une pilule anti-spread, si vous voulez ce que je veux dire. C'est-à-dire que contrairement aux Français, l'ensemble des pays étrangers font une grande confiance en Emmanuel Macron, trouvent que c'est un très bon président. Et donc les marchés financiers en particulier, et Bruxelles, considèrent que c'est un bon président. Donc on lui accorde un peu de dépenses supplémentaires sans coût. Mais profondément, si vous voulez bien, Jean-Marie, je voudrais essayer de vous dire ce que je pense de cette crise sociale dans laquelle nous sommes plongés. Je trouve que le social en France est très en retard sur l'économie. Grâce aux mesures prises par Nicolas Sarkozy, puis par Hollande, et puis évidemment amplifiées par Emmanuel Macron, l'économie française se redresse, et se redresse assez vite. Ça se voit sur les investissements étrangers en France, sur la compétitivité qui est grosso modo, pas complètement, mais grosso modo retrouvée, et sur les créations d'emplois qui sont à un rythme inexpliqué. Donc il y a une situation économique qui s'améliore grandement maintenant, mais la situation sociale est très en retard parce qu'elle est plombée, et dans le moral de la population, plombée par 30 ans de chômage. quand vous avez eu votre grand-père au chômage, votre père au chômage, vous êtes vous-même au chômage, c'est évident que ça pèse sur le moral, profondément sur le moral de la nation. J'ajoute que les transformations technologiques mondiales, alors, de type d'emploi qui sont moins CDI et plus... on fait plusieurs emplois dans sa vie, donc tout ça crée une angoisse générale. Mais le social en France est donc en retard sur une amélioration économique. Le risque, c'est évident que, évidemment, que cette crise sociale qui est utilisée par, je dirais, des diafois russes qui font croire à la France qu'elle est très malade. La France est moins malade qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. Et donc, elle est en voie de rétablissement. Donc, il ne s'agirait pas de la bloquer maintenant, de bloquer l'économie maintenant, parce qu'effectivement, si on bloque l'économie, le social ne s'en portera pas bien.
Jean-Claude Casanova, sur cette appréciation.
Je partage entièrement l'avis d'Éric. J'ajouterai un volet politique, si vous voulez, parce que ce qui caractérise la France, c'est un poids des extrêmes supérieur aux autres démocraties européennes. Et actuellement, nous avons non seulement un poids élevé des extrêmes, mais une conjonction des extrêmes. Car à l'évidence, si vous voulez, il y a une stratégie conjointe de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Les partis dits de gouvernement sont extraordinairement affaiblis. Le Parti socialiste, qui est responsable de l'âge de la retraite à 60 ans en 81, était passé à 62 et maintenant il redescend à 60. Ça prouve, si vous voulez, la force de... Et l'extrême droite est devenue très puissante à partir d'une situation difficile en termes d'immigration et d'identité. Et donc, il y a une faiblesse politique française qui s'appuie sur l'inculture économique des Français. Dans les sondages mondiaux sur ce qu'on pense dans les différents pays, la France se singularise par une moindre compréhension des phénomènes économiques par rapport au Portugal, à l'Espagne ou à l'Italie. On dit que les pays méditerranéens sont faibles, mais ils sont mieux que nous dans la compréhension des mécanismes. Si on regarde la politique espagnole ou la politique portugaise, faite par des gouvernements de gauche, c'est beaucoup plus responsable que l'opinion française en ces matières. Et alors, j'ai été jeudi particulièrement indigné par le comportement de l'Assemblée nationale, mais au-delà de ça, par le monde médiatique qui fait du 49-3 une abomination. Or, si on réfléchit sur ce qu'est exactement le 49-3, je dirais que le 49-3 existe sous des formes diverses en Allemagne, d'une certaine façon en Angleterre. Dans tous les pays, on a des législations ou des constitutions qui prennent les hommes comme ils sont. Or, les hommes ne sont pas parfaitement courageux. La France et le Parlement n'est pas peuplé de spartiates, élevés dans le courage, si vous voulez. Et donc, ce sont des systèmes constitutionnels qui disent ou bien vous approuvez explicitement une loi, ou bien vous l'approuvez implicitement. Si vous l'approuvez implicitement, ça vous offre la possibilité de dire à vos électeurs « Cette loi, je ne l'ai pas votée, mais je n'ai pas renversé le gouvernement. » L'existence du gouvernement fait que la loi passe. C'est l'astuce du 49-3. Je reconnais que ce n'est pas extraordinairement glorieux. Je préférerais une assemblée de sénateurs romains, si vous voulez, qui dirait c'est la loi, point à la ligne, et qui voterait. Mais
c'est ce qu'a fait le Sénat, d'ailleurs.
Le Sénat s'est parfaitement comporté, d'ailleurs. Ils risquent moins, ils sont moins démagogues compte tenu de leur mode de scrutin, qui est un scrutin indirect, si vous voulez. Mais quand même, si vous voulez, que les médias présentent le 49-3 qui existe depuis le début de la Ve République comme une abomination et que M. Martinez donne des cours de droit constitutionnel en expliquant que c'est la fin du monde et la fin de la démocratie, ce n'est pas acceptable. Je regrette que les députés républicains ne votent pas purement et simplement la loi. Mais, si vous voulez, ils ne renversent pas le gouvernement et donc, le gouvernement voulant cette loi, la loi devient la loi. Et que ce ne soit pas partagé comme une idée raisonnable par l'ensemble des Français est quand même une crise grave. C'est là qu'est la crise de notre démocratie. C'est la non-compréhension des mécanismes politiques.
Mais vous dites les médias, mais en fait c'est l'opinion qui a changé sur le 49-3 parce qu'auparavant, elle était... il y a eu 100 utilisations du 49-3 jusqu'à présent. Et auparavant, c'était, je veux dire, voilà, c'était conçu comme, et compris comme une arme à la disposition du gouvernement. L'opinion a changé de point de vue sur le 49-3 et lui a donné une connotation de brutalité depuis en fait l'utilisation par Manuel Valls du 49-3 sur la loi El Khomri, la loi sur la réforme du travail d'El Khomri.
La loi Macron d'abord.
Qui participe d'ailleurs de ce qu'est...
La loi Macron et la loi ensuite.
Et donc et à partir de ce moment-là, l'opinion a glissé et maintenant on voit que les popularités des dirigeants, notamment de la Première Ministre, est indexée sur l'utilisation du 49-3. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle l'a utilisé, elle l'a déjà utilisé, sa cote a reculé très fortement. Donc il y a maintenant dans l'opinion une association entre 49-3 et brutalité. C'est ça qui a changé fondamentalement dans la façon dont les gens peuvent regarder les choses. Et d'ailleurs, les micro-trottoirs des médias, justement, étaient très instructifs sur ce plan-là, parce que les gens disaient, mais comment, c'est un coup de force, le mot coup de force était employé, alors qu'en effet, c'est vrai que c'est un processus démocratique avec ce vote implicite que vous évoquiez pour celles et ceux qui ne voteront pas la motion de censure. Mais peut-être que l'une des motions de censure aboutira, ça on ne sait pas. Et à ce moment-là, on entrerait dans un scénario tout à fait différent.
Je respecterai davantage les gens qui votent la motion de censure que les gens qui ont imposé le 49-3 en préférant une adoption implicite de la loi.
Mais pour continuer sur ce plan, dans les innombrables batailles perdues par le gouvernement, batailles devant l'opinion, perdues d'ailleurs de façon assez incroyable, puisque plus la mobilisation et plus la mobilisation s'étendait et plus l'opinion devenait défavorable à la réforme. C'est-à-dire que le gouvernement, pendant toute cette période, n'a non seulement pas convaincu, mais il a de moins en moins convaincu, parce qu'on est passé de 65% en gros de Français qui critiquaient la réforme à 75% pratiquement aujourd'hui. Donc il y a vraiment là un échec patent du gouvernement en termes de communication. Mais il y a aussi, Eric, peut-être aussi une bataille perdue d'entrée de jeu par le gouvernement sur l'urgence ou la nécessité d'une réforme, l'urgence de cette réforme. Et donc la bataille de l'expertise, entre autres, a été gagnée par les opposants à la réforme, pour montrer que cette réforme n'était pas d'une urgence telle qu'il faille aujourd'hui continuer dans la voie qui était celle du gouvernement. Puisqu'il n'y avait pas d'urgence, eh bien on pouvait prendre le temps de discuter autrement ou revenir peut-être au premier projet de réforme à point du gouvernement. Éric Le Boucher.
Oui, c'est-à-dire tarder à faire la réforme. Écoutez, moi, sur cette nécessité de faire cette réforme d'allongement de la durée du travail, je ne comprends pas du tout les arguments des gens qui y sont opposés. En quoi la France est-elle si exceptionnelle qu'elle puisse rester à 62 ans quand tous les pays sont passés à 65, voire 67 ans? Qu'on m'explique quelle est la potion magique que les Français ont dans leur poche pour éviter de travailler plus. Je ne la vois pas. Travailler plus est une nécessité quand on voit la différence avec les temps de travail aussi bien par semaine que dans la durée de vie avec les autres pays. C'est travailler plus, c'est produire plus, c'est donc pouvoir distribuer plus. C'est très simple. Donc on devait, à un moment ou à un autre, puisque les gens vivent plus longtemps, on devait travailler plus longtemps. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Après, on se perd dans les chiffres. Et ça, j'en veux beaucoup au corps, au comité d'orientation des retraites, qui a produit un rapport où il y a tout et son contraire. Donc on peut tout y lire, chacun y trouve son argument. Donc ça a créé une confusion dans les esprits sur un problème simple. On vit plus longtemps, faut travailler plus longtemps.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Éric Le Boucher aujourd'hui, qui est éditorialiste à l'Opinion et au journal Les Échos. Nous évoquons les conséquences de ce qui s'est produit à l'Assemblée nationale et de ce qui est devant nous, c'est-à-dire éventuellement le vote d'une motion de censure contre le gouvernement sur cette affaire de réforme des retraites. Éric, vous évoquiez le fait qu'il est difficile de comprendre pourquoi la France pourrait s'abstraire d'une d'une durée de travail qui augmente partout, qui a augmenté partout. Mais c'est simplement que peut-être la réforme, on peut être d'accord sur la nécessité d'une réforme et être en désaccord avec la réforme telle que la proposait le gouvernement. À commencer par le gouvernement lui-même, puisque Emmanuel Macron avait fait voter à la fin du premier quinquennat, en première lecture, une réforme du système qui était une réforme du système à points, qui était celle-là approuvée par la CFDT et d'autres syndicats, et puis qui s'est perdue dans les sables, si j'ose dire, qui s'est perdue avec le virus, avec l'arrivée de la Covid. Et Emmanuel Macron est revenu tout d'un coup avec une autre vision, qui touche cette fois à l'âge, mais il l'a fait aussi pour des raisons politiques, parce qu'il cherchait sa réélection, et il est allé emprunter aux Républicains et à la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, une mesure phare, qui était la réforme, la retraite à 65 ans. Donc il l'a fait pour être réélu, il a été réélu avec des voix de droite, son calcul de ce point de vue-là a bien marché, mais en même temps il est rattrapé aujourd'hui par les conséquences de ce mouvement qui fait qu'il se heurte aujourd'hui à une majorité de l'opinion, Jean-Claude Casanova.
La réalité est que le nombre de gens qui travaillent, le pourcentage de ceux qui travaillent par rapport au nombre de retraités se réduit, donc ou bien on réduit les pensions, ou bien on augmente les impôts, ou bien on augmente la quantité de travail. Alors, on ne peut pas augmenter davantage les impôts compte tenu de notre déficit actuel. On ne peut pas, et puis les Français ne l'accepteraient pas, on ne peut pas faire autrement que d'augmenter la quantité de travail. Et donc, je ne vois pas comment on peut sortir de là. L'opinion ne le comprend pas, mais parce que l'opinion a accepté des mesures démagogiques. Le programme commun de 81 était un programme consternant au point de vue économique, il a été abandonné sur à peu près tout, les nationalisations, toute une série de mesures, il a simplement conservé la retraite à 60 ans, et bien on sort progressivement de cette contrainte, si vous voulez, comme tous les autres pays, et l'âge limite, si vous voulez, augmente dans tous les pays. Alors, qu'on prenne des mesures pour faciliter ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, qu'on prenne toute une série de mesures sociales, on le fait dans cette loi. Elle est une loi très peu contraignante. En fait, il y a énormément de mesures sociales à l'intérieur de cette loi qui compensent les situations de fait. Donc, il y a un débordement de fureur contre cette loi qui est faux. Les Français se trompent et donc je reste partisan de ces mesures. Et ils comprendront progressivement qu'ils ont eu tort.
Enfin, Éric Le Boucher.
Oui, après, on revient sur la durée du travail, c'est-à-dire la quantité de travail. Effectivement, il peut y avoir un débat en se disant, bon, bah, ok, nous, on préfère ne pas travailler. Voilà. On préfère, c'est l'évolution de l'humanité, on travaille chacun de moins en moins longtemps par rapport aux générations précédentes. On était à 48 heures de travail par semaine, on est passé à 35, tout ça c'est du progrès, il faut toujours aller plus loin. Moi je dis très bien, il faut aller plus loin, ok, si vous voulez, c'est un choix ça, effectivement, si vous voulez travailler moins. Mais si vous voulez travailler moins, vous produirez moins. Donc on aura moins à distribuer, c'est-à-dire que vous pouvez pas travailler moins et gagner plus. Ça, c'est pas possible. Donc il faut choisir entre, si on veut augmenter le pouvoir d'achat des Français, il faut travailler plus. C'est aussi simple que ça. Il y a pas à tourner autour du pot. C'est pour ça que toute une espèce de confusion en France. Oui, nous sommes différents des autres parce que nous préférons le loisir au travail. Bon, bah si tu préfères le loisir, t'auras moins d'argent dans la poche. Ok, tu préfères être pauvre, être en vacances, mais pauvre. Bon, mais on peut pas être en vacances et riche.
Cela dit, pour fixer les idées, il faut avoir en tête simplement deux chiffres. En l'an 2000, il fallait servir 10 millions de retraites, pour 10 millions de retraités. En 2030, année où, si la loi passe au 49-3, si elle est finalement acceptée, donc en 2030, année des 64 ans, parce que les 64 ans n'interviendront qu'en 2030, 20 millions. 20 millions de retraités. Donc passer de 10 millions à 20 millions de retraités, c'est évidemment un problème. Et donc, en effet, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, on peut très bien réduire les pensions, baisser les retraites, comme a dû le faire la Grèce d'ailleurs, qui a baissé les retraites un temps de 25%. Mais si on veut éviter cela et si on veut maintenir le niveau actuel des pensions, il faut en effet quelque part un effort. Mais néanmoins, au-delà La question que l'on peut se poser, c'est sur ce que peut nous apporter encore, si tant est que cela soit possible, le macronisme, Emmanuel Macron au pouvoir. Parce que moi, j'ai un peu l'impression, mais c'est peut-être une vue excessive, que voilà quelqu'un qui est arrivé au sommet de l'État armé du rapport de la commission Attali, dont il faisait partie, avec toute une série de mesures qui sont au fond des mesures techniques, dont la réforme des retraites. Mais une fois exposé ce plan-là, que peut-il apporter de plus? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose à offrir comme perspective au pays. Alors, évidemment, il y a la gestion des crises, puisque c'est l'essence même de la fonction présidentielle. Et Dieu sait s'il y a des crises. Vous allez peut-être nous dire un mot sur la perspective d'une crise financière nouvelle, une crise financière internationale. Il y a la gestion des crises. Mais au-delà de ça, voilà, j'ai l'impression que passer cette réforme des retraites, il n'y a plus grand-chose dans son escarcelle.
D'abord, il y a un premier point qui reste, qui était là avant et qui continue, c'est l'Europe. C'est-à-dire que quand même, Macron est un fervent partisan de l'Europe. Et il reste du travail à faire, énormément, puisque l'Europe est vraiment au pied du mur devant la construction des deux empires, Chine et États-Unis. Et qu'est-ce qu'on fait de l'Europe dans ce nouvel univers? Il faut absolument qu'elle se mobilise, qu'elle s'arme, et technologiquement, militairement, etc. Donc il y a un énorme travail. Les prochaines élections, ce sont les élections européennes en 2024. Donc il y a à préparer ça. Élections, audites au passage, qui vont éclaircir, à mon avis, le panorama politique, puisque là, on va bien voir la fracture dans chaque parti, entre ceux qui sont pour l'Europe et ceux qui sont contre. Et donc, tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui à propos des retraites, tout ce qu'on voit, tout ce brouhaha politique, j'espère, va se clarifier en 2024. Voilà. Donc, c'est une première chose à faire. Mais Macron, il aurait beaucoup d'autres choses à faire pour consolider, si vous voulez, l'économie française et aujourd'hui pour résoudre tout, faire rattraper le social à l'économie qui est un peu en avance sur le social, comme je l'expliquais au début. Donc il y a énormément de choses à faire sur l'éducation, sur la notion de travail, par exemple. Oui, encore que c'est un sujet tellement vaste, tellement mondial, le travail, que la petite France, dans tous ces sujets, si vous voulez, le problème des ZAD, c'est que ça regarde les micro-choses. Et qu'aujourd'hui, nous sommes, toutes les choses sont planétaires. Donc c'est complètement contraire à la bonne politique, le zadisme. Parce que on ne résout rien localement, c'est pas vrai. On résoudra tout mondialement, oui. Et donc la vraie politique, elle serait mondiale. Moi, je comprends pas cette gauche française qui s'enferme sur la nation et sur le local. C'est pourquoi la gauche française ne construit pas une gauche européenne? Pourquoi les syndicats français, qui ont l'air de se battre ici, n'ont fait aucun effort pour construire des syndicats européens?
Laurent Berger préside la Confédération européenne des syndicats.
Mais oui, mais c'est-à-dire un rien, ça n'existe pas.
Il nous reste très peu de temps, Jean-Claude.
Macron paye une erreur politique, c'est-à-dire qu'il a perdu les législatives. Et normalement, après les législatives qui se sont produites, il aurait dû y avoir un accord entre le parti de Macron ou les partis de Macron et les Républicains. Il aurait dû y avoir un contrat, comme en Allemagne. Il aurait dû y avoir, au fond, une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. C'était l'intérêt, d'ailleurs, des Républicains, parce qu'actuellement, par leur comportement, les Républicains font le jeu du Front National, du Rassemblement National. Il y aurait eu un accord entre eux, si vous voulez. La loi serait passée sans difficulté, puisqu'elle correspondait à ce que souhaitaient les uns et les autres. Donc, c'est le pseudo-parti de gouvernement qui démontre son incapacité à gouverner, si vous voulez, et qui fait le jeu du Front National. Et donc, mais l'erreur de départ vient de Macron. S'il avait conduit différemment la campagne des législatives, si vous voulez, où il avait besoin de voix de droite, il ne se serait pas trouvé dans cette situation.
Quelques mots pour conclure, Éric Le Boucher.
Non, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Jean-Claude. J'approuvais en silence. Oui, c'est. Mais or maintenant, ça devient difficile de faire cet accord parce que le parti de droite a explosé en mille morceaux, si je puis dire. Donc,
il est calé sur le modèle du Parti socialiste. C'est-à-dire
ils vont faire semblant de voter la loi en ne votant pas la censure.
Et c'est-à-dire que le Parti socialiste, absolument aucune vision du monde.
Et donc, la prochaine étape de ce feuilleton, c'est évidemment lundi, puisque lundi seront discutées les motions de censure, avec une motion de censure qui est redoutable, qui est celle conduite par M. de Courson, qui est centriste, et donc dont les leaders de la France Insoumise ont dit que c'était quelque chose qu'on pouvait voter avec les voix du Front National, avec les voix du Rassemblement National, dont ça va attirer un maximum de monde, cette motion de censure, Jean-Claude Adamo.
Je crois que Courson va atteindre le point maximum de popularité, si vous voulez, avec le point maximum d'inconscience.
Bien, on restera sur ce dernier mot.
Puisque
de Jean-Claude
c'est un centriste qui vote contre un gouvernement centriste.
Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, Éric Le Boucher, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Et Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.